Bonjour à tous. C'est un plaisir encore de pouvoir vous retrouver ce matin. C'est encore bon d'être dans la présence de Dieu, avec vous, dans la louange. Et j'espère que vous êtes également heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin. Avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on puisse demander à Dieu de nous bénir, parce que j'ai vraiment un message sur mon cœur pour nous, et je voudrais vraiment que Dieu trouve un accès dans mon cœur et dans le vôtre pour le recevoir. On va juste prier deux petites minutes. Seigneur, on te prie de pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous visiter, Seigneur, encore ce matin. Seigneur mon Dieu, on va ouvrir ta parole et on veut s'attendre à ce que ta parole ait un impact sur nos vies. Seigneur mon Dieu, on veut avoir pour ça un cœur propice, un cœur ouvert. Seigneur mon Dieu, je te prie de m'accompagner afin que, Seigneur mon Dieu, elle puisse trouver, Seigneur mon Dieu, une écoute, Seigneur, par ton esprit dans les cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, produis ton miracle. Viens, Seigneur mon Dieu, encore encourager, viens encore interpeller, viens encore nous parler, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour commencer mon message, j'aimerais en fait introduire par une petite photo qui annonce le thème en fait de ce que je veux vous partager. Cette photo, c'est celle-là. Vous voyez, en fait, c'est une photo que j'ai prise alors qu'on était avec ma femme au Maroc, à Marrakech. Et je l'ai prise parce que je la trouve étonnante et je pense que vous la trouverez également étonnante. C'est un arbre, mais on en trouve beaucoup des comme ça à l'extérieur de la ville, sur les routes de campagne, ou des arbres avec des chèvres sur leurs branches. Et c'est vraiment quelque chose d'atypique parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça chez nous quand on se promène en France. Ces chèvres, elles sont dans l'arbre parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Dans cet arbre, il y a une graine, un fruit. Et en fait, cet arbre, c'est un arganier. Et la graine de l'arganier produit l'huile d'argan. Je ne sais pas si vous connaissez l'huile d'argan. Avec l'huile d'argan, en fait, c'est vraiment quelque chose d'important pour la société berbère, pour toute la société qui l'utilise depuis des siècles et des siècles. À partir de ces graines, ils font une huile qui est quasiment un des fondements de leur économie. Sans cette huile, ils ne pouvaient pas vivre, et encore aujourd'hui, ils en vivent pour beaucoup. C'est une huile qui est utilisée autant pour l'alimentation que pour leur santé, du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Quand les bébés viennent à la naissance, on les badigeonne de cette huile pour les protéger du soleil. Quand tu vieillis, eh bien, ils les utilisent pour les rhumatismes. Mais cette huile fait partie de ce peuple parce que cette huile est essentielle à ce peuple. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça m'a interpellé, parce que la Bible nous parle également, dans la Bible, Dieu nous parle d'une huile. Une huile qui est précieuse, une huile qui vient de Dieu, une huile que Dieu veut communiquer à son peuple, parce que de la même manière, cette huile est primordiale pour son peuple. Elle est précieuse. Dieu sait que sans cette huile, eh bien, son peuple ne peut pas vivre. Cette huile, Dieu l'a préparée spécialement pour son peuple parce qu'il sait qu'il en a besoin pour le protéger, pour le nourrir. C'est quelque chose d'essentiel aux yeux de Dieu. Cette huile, vous l'avez certainement compris, c'est le Saint-Esprit. Et mon titre, c'est l'huile fait la différence, l'huile qui fait la différence, parce que le Saint-Esprit, dans la vie de chacun d'entre nous, est amené à faire la différence. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne vit qu'une religion. Le Saint-Esprit nous communique une vie qu'une religion ne peut communiquer. C'est ce qui nous permet à notre âme d'être nourrie et de pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu déversait physiquement de l'huile sur certaines personnes. Vraiment des personnes particulières, les personnes qu'il appelait à jouer un rôle. Il les appelait à une consécration particulière parce qu'il les avait désignés pour une bénédiction particulière pour le peuple. C'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et physiquement, on voit que de l'huile était répandue de la tête sur tout le corps également, comme un symbole que Dieu, le Saint-Esprit, était là, les accompagnait dans leur ministère, que Dieu avait vraiment prévu pour eux. Ils étaient mis à part, mais c'est réservé à cette élite. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose que Dieu veut répandre sur son Église. Depuis la Pentecôte, Dieu a communiqué le Saint-Esprit et l'Église est née. L'Église, aujourd'hui, est appelée à pouvoir vivre en communion avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, parce que Dieu veut accomplir et faire la différence au travers de l'Église par le Saint-Esprit. Vous êtes toujours là ? Amen. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le Saint-Esprit permet à l'Église d'être bénie et d'être une bénédiction. Et si je posais la question ici, qui veut être béni, qui veut être une bénédiction, lève la main. Je pense que vous voulez tous être bénis. Et je pense que vous voulez aussi être une source de bénédiction. C'est quelque chose qui doit parler à chacun de nos cœurs. Vous savez, on veut tous que notre vie compte. On veut tous que vraiment produire quelque chose de bon. C'est au fond nous, on aimerait bien que vraiment les gens à notre contact soient heureux, soient bénis, produisent quelque chose. Même les gens les plus aigris de la vie, ceux qui sont amers au fond d'eux-mêmes, qui sont peut-être blessés, c'est pour ça qu'ils sont amers, aimeraient au final que leur vie ait un sens, que la donne soit changée. Peut-être même ceux qui s'en veulent parce qu'ils ont commis des choses mauvaises, ceux qui sont peut-être dans les prisons regrettent ce qu'ils ont fait, mais ils aimeraient bien réécrire l'histoire, pouvoir produire quelque chose de bon. J'aimerais vous dire une chose, en tant que chrétien, ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Si vous voulez être béni et, être une source de bénédiction, il faut le Saint-Esprit. J'aimerais prendre avec vous un texte qui nous parle de cette huile d'onction et j'aimerais qu'on puisse en trouver l'instruction. C'est dans 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 13, en version Summer, je lis. 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 13. Il est dit, Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel et celui-ci lui dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il lui demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?»« Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y. » Confère-lui l'onction. Samuel prit la corne d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. Et il est dit, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David à partir de ce jour-là et dans la suite il demeura avec lui. C'est merveilleux parce que David, vous voyez, c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est quelqu'un d'ordinaire. On voit à ce moment-là que le prophète Samuel vient justement pour conférer l'onction, donc donner l'onction à un nouveau roi. Et Dieu a désigné David. Il faut savoir que Saül avait également l'onction, était appelé par Dieu à conduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire être roi. Mais en Israël, être roi signifiait pas seulement être roi pour eux, pour son propre compte. En Israël, quelqu'un qui était désigné comme roi, c'était quelqu'un qui était choisi par Dieu, être le représentant de Dieu pour le peuple. Il avait une responsabilité énorme, c'est qu'il devait conduire le peuple dans les voies de Dieu. C'est lui qui était un peu l'exemple. Et on voit que dans la Bible, beaucoup de rois étaient soit de bons exemples ou alors de mauvais exemples. Et Dieu a rejeté Saül parce que l'onction qu'il lui avait donnée, en fait, Saül, il a voulu la garder pour lui. C'était son propre orgueil. Il profitait de cette onction uniquement pour lui, mais Dieu, vous lui avez donné cette onction pour être une bénédiction pour le peuple. Et c'est pourquoi on arrive à cette histoire et on voit que Dieu vient s'adresser par l'intermédiaire de Samuel à David. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que Samuel va chez Isaïe, va lui dire « J'ai une bénédiction pour toi ». Et Isaïe, ce papa, va lui présenter 7 fils, mais il en manque un. Il manque un à l'appel. Il ne considère même pas David, son propre fils. Vous voyez, les 3 premiers fils passent, c'était des grands gaillards, des hommes costauds, tout ça. Et l'Éternel dit non, ce n'est pas ce type d'homme-là que j'ai choisi pour mon onction. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas un autre fils, David. Tu n'as pas un autre fils, Isaïe. Et là, Isaïe dit, ah bah oui, oui, c'est vrai, j'en ai un autre. Un petit dernier qui est dans les pâturages. Bah, si tu veux, je peux te l'amener. Bah, il dit, oui, amène-le-moi. David n'était pas considéré de sa famille. David, les gens le voyaient certainement peut-être comme quelqu'un de petit, comme quelqu'un qui n'était peut-être pas capable. Et pourtant, Dieu l'avait vu dans ses pâturages. Dieu avait porté attention à lui. Dieu voyait qu'en lui, il y avait une possibilité. Dieu voyait et il voulait lui conférer quelque chose de puissant parce qu'avec lui, il voulait l'utiliser. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu t'a ignoré parce que tu n'es pas assez fort, assez complet, assez qualifié ou autre. J'aimerais te dire une chose, c'est que ce matin, Dieu te voit là où tu es. Sache qu'une chose est nécessaire parce que Dieu va dire à Samuel, je cherche un homme selon mon cœur. Samuel, tu vois, tu regardes quelqu'un ici, ses fils, mais tu les vois selon ton œil physique. Moi, je regarde quelque chose qui est à l'intérieur. Ces hommes-là ne conviennent pas à mon cœur. Ils ne sont pas comme j'aimerais qu'ils soient pour mon service. Et par contre, je vois David. Ce David-là, il a un cœur comme je le désire. C'est pourquoi je t'ai choisi. Si tu as ce cœur de Dieu, j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu allait regarde sur toi et il veut te donner son esprit. Il veut te conférer cette onction pour t'utiliser. Il a un plan pour ta vie. Il t'appelle à une mise à part parce qu'il veut pour son œuvre, eh bien, t'utiliser et faire la différence. On voit une chose, c'est que David, lorsqu'il reçoit l'onction, eh bien, c'était un homme qui aimait Dieu. Mais cette onction va être un moment déterminant dans sa vie. C'est que on va voir que David va produire la différence autour de lui. La première des choses que j'aimerais noter, ça c'est le premier point, c'est que Dieu veut faire la différence dans nos vies par le moyen de l'onction. C'est qu'il l'a fait comment dans nos vies ? Il nous rend vainqueurs sur nos plus grandes difficultés. Au travers de nos difficultés, je ne sais pas si, et je pense que oui, vous savez ce que sont les difficultés. Vous en traversez, on en traverse tous. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, la difficulté est quelque chose que tôt ou tard on rencontre. Des murs sont là, des fois, et heureusement, on arrive à les traverser, on arrive à les surmonter. Que tu sois chrétien ou pas, ils y arrivent des fois. Même des fois, par nos propres forces, nous qui sommes chrétiens, on voit et on arrive à les traverser, mais il y a des fois des obstacles, des murs qui se dressent, qui sont imposants, qui font 3,06 m, un peu comme Goliath. C'est des moments inattendus dans notre vie où, en fait, lorsqu'on ne s'y attend pas, et Goliath un jour se dresse devant nous, et on ne sait pas comment faire, on est paralysé. C'est ce qui va se passer pour David. Il est dit à un moment, chapitre 17, chapitre d'après, c'est que les Philistins attaquèrent le peuple d'Israël. Les Philistins vont se mettre en ordre de marche pour attaquer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et ils vont se mettre sur une montagne, le peuple d'Israël sur une autre montagne, une vallée qui traverse les deux montagnes. Et alors qu'ils s'apprêtent à combattre, eh bien, il y a un obstacle de taille qui va faire son apparition. Dans les rangs de l'armée des Philistins, un géant va sortir des rangs. Il s'appelle Goliath. 3,06 m, une cuirasse de 60 kilos. Quelqu'un d'imposant qui va commencer à narguer l'armée d'Israël, qui va les paralyser. Il va les impressionner, mais il va aussi les décourager, les intimider. Je note ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, mais pourquoi vous rangez-vous en ordre de bataille ? Mais à quoi ça sert que vous vous rangiez en ordre de bataille ? On voit une chose, c'est que Goliath se met à, déjà rien que par sa taille, les impressionner, mais par ses paroles, il va les intimider, il va totalement les pétrifier de peur. Il est dit que l'armée d'Israël, en voyant Goliath, se met à trembler, se met à être paralysée de peur. Ils ne peuvent comme plus bouger. Ils sont là, ils écoutent les paroles de Goliath, mais à quoi ça sert que vous vous mettiez à vous en ordre de bataille ? Regardez, je suis là, tu ne pourras pas bouger. Et là, il les défie. Ils commencent à se moquer de Dieu, à se moquer de leur Dieu, et il les défie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos obstacles ? Peut-être que c'est ça ce matin, un géant qui vous dit, mais à quoi bon ça sert aujourd'hui encore de pouvoir espérer continuer à servir Dieu dans ton service. À quoi bon ça sert peut-être encore aujourd'hui de chercher à servir Dieu dans ton ministère ? Tu ne peux rien faire, je suis là, Goliath est là. À quoi ça sert peut-être d'essayer de résister dans tes passions ? Peut-être que toi tu es en lutte avec la porno, que ce soit avec des choses qui t'avilissent, qui te rendent esclave. Et là, Goliath est là comme un mur gigantesque et qui te montre que tu ne pourras pas le surmonter. À quoi ça sert de surmonter ses passions ? À quoi ça sert peut-être encore de témoigner ? À quoi ça sert de te battre pour tes enfants ? À quoi ça sert d'espérer encore quelque chose ? Goliath est là. Il se dresse devant toi et toi, tu es comme paralysé. Tu n'espères plus en rien parce que la difficulté est trop imposante à tes yeux. Il est dit que Goliath se dressait chaque jour devant le peuple d'Israël, matin et soir. Il les intimidait. Pendant 40 jours, il était là. Qui va combattre ? Vous n'y arriverez jamais. Et là, le peuple était pétrifié de peur. Il n'avançait plus. Le peuple d'Israël n'avait pas l'onction du Saint-Esprit. Saül, il est dit que avait perdu l'onction du Saint-Esprit. Et alors que l'armée d'Israël est pétrifiée de peur dans les rangs, que le diable Goliath est en train de rugir et est en train d'effrayer le peuple. Vous avez vu, il a réussi à paralyser l'armée juste par ses paroles. Juste par des paroles, il a réussi à décourager toute une armée. Le diable, ça j'aime bien, c'est une expression que Éric Dufour a donnée, c'est comme un lion qui rugit. Mais ce que le peuple a oublié, c'est que Dieu lui a enlevé ses griffes et ses crocs. Il nous rugit, il fait peur et il nous paralyse. Tout simplement parce qu'il est imposant. Mais on a perdu de vue quelque chose, c'est que Dieu nous a rendus victorieux sur nos Goliaths. Alléluia. Et on voit une chose, c'est que David arrive en scène. David va faire la différence. Parce que David a reçu l'onction. David est rempli du Saint-Esprit. David déborde même de la présence de Dieu. Et à un moment donné, alors qu'il voit que toute l'armée est là et paralysée de peur, il entend cet ennemi, cet homme-là qui se moque de Dieu, qui le méprise, qui méprise le Dieu d'Israël. Eh bien, il l'entend et il réagit d'une manière totalement différente. L'onction qui est sur David lui permet de voir l'obstacle d'une manière totalement différente. L'armée voit un géant et David voit une chose, c'est qu'il voit un ennemi à abattre parce que Dieu est avec lui. Il voit que Dieu est plus grand encore que l'ennemi qui se dresse devant sa route. Et il dit quelque chose de formidable, c'est un texte merveilleux, c'est un de mes textes préférés. Mais il dit 1 Samuel 17, 26, « Qui abattra ce Philistin ? Qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ? Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je combattrai. » Imaginez David. Vous savez, David, c'est un petit jeune homme. Et il y a un colosse sur le ring qui attend de massacrer quelqu'un. Et tout le monde a peur, à juste titre, imaginez-vous, vous êtes devant Mike Tyson, il vous attend sur le ring, et là, il y a la foule autour de vous qui vous regarde, et vous, vous êtes là et vous devez affronter ce monsieur. Imaginez. Eh bien, David va se présenter. Il va se présenter. Et j'aime quelque chose, c'est que l'onction lui donne une vision totalement différente. Il lui ouvre les yeux sur les possibilités de Dieu, parce que ce n'est plus lui-même qui agit, c'est le Saint-Esprit en lui qui le pousse à pouvoir accomplir quelque chose qu'il est appelé à vivre, à battre ce géant. Et il va dire quelque chose à ce Goliath. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, avec ces moyens humains qui impressionnent. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Amen. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu sait que ses enfants, son peuple, est amené à rencontrer des Goliaths, des géants. Dans ta vie, il le sait, mais il nous aime, et il sait pertinemment qu'il y a des moments où nous ne pourrons pas être de taille face à des Goliaths que nous rencontrerons. Mais il a prévu déjà aujourd'hui un moyen de pouvoir nous en délivrer. Le Saint-Esprit était sur David. Et le Saint-Esprit, Dieu veut nous le donner à nous. Dieu veut le donner à toi aujourd'hui qui est dans ton épreuve. Dieu veut te rappeler que son esprit a la capacité de pouvoir te faire voir tes épreuves d'une manière totalement différente. Parce que le combat qu'affrontait le peuple d'Israël n'était pas le leur, c'était le combat de Dieu. J'aimerais vous dire une chose, on est les enfants de notre Seigneur, on est les enfants de Dieu, Dieu nous a rachetés, nous sommes ce qu'il y a de plus précieux. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu prend soin de ses enfants. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la galère. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la vallée avec le Goliath. Mais j'aimerais vous dire que lorsque on descend de la montagne pour pouvoir affronter les épreuves, eh bien il est toujours là. Le verset qui nous dit « Ton ombre est derrière moi, ton ombre est autour de moi. Tu nous protèges que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. » Qu'est-ce qu'il est dit ? « Tu es avec moi. » Ta houlette, ton bâton me protège, elle me rassure. Tu es avec moi, tu ne peux m'abandonner. Ça, c'est qui chantait ça ? C'est qui chantait ça ? David ? Oh ! L'onction du Saint-Esprit était sur David. Dieu veut nous rappeler qu'il nous met à disposition une huile qui fait la différence, le Saint-Esprit. Dans nos épreuves, face à nos Goliaths, Dieu veut nous rendre victorieux. Alléluia. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit nous permet également d'être une source de consolation et de réconfort pour les autres. Et là, il y a encore une histoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, j'en ai ciblé deux, mais c'est qu'on voit un autre moment de la vie de David. Il a reçu cette onction merveilleuse. Dieu a vraiment un plan pour sa vie, l'utilise, Goliath. Mais à un moment donné, il est dit que Saül, qui n'a plus l'esprit, est comme tourmenté à l'intérieur de lui-même. Il est angoissé et il a besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui viendra l'apaiser. Et au bout d'un moment, on lui rappelle quelque chose, on lui dit, mais attends, mais il y a ce jeune David là. Et ça, j'aime vraiment, je vais lire avec vous le verset, il dit, voici, il y a David. C'est un homme fort et vaillant. On le sait parce qu'il le sait parce qu'il a vu terrasser Goliath. C'est un guerrier. Il parle bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Une chose merveilleuse, c'est que, vous voyez, cet homme-là voyait quand David, eh bien, l'Éternel était avec lui. On voyait et il le savait. Il avait vu David jouer de la harpe. Il voyait que David était un homme que Dieu accompagnait. David déjà avait une communion avec Dieu. On voit une chose, c'est que même avant d'arriver, d'intervenir pour venir jouer de la musique auprès de Saül, pour venir le réconforter, eh bien David était un homme qui avait une communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que David connaissait. Il entretenait une relation et ça se voyait. L'Éternel était avec lui. Cette relation dans sa louange, dans son moment privé, eh bien se répandait autour de lui. J'aimerais vous dire une chose, c'est que déjà dans votre louange, mes frères et sœurs, mes amis, c'est Dieu fait des choses merveilleuses. Dans la communion qu'on peut avoir avec Dieu, Dieu fait des choses merveilleuses. Déjà d'une part, le Saint-Esprit est présenté comme le consolateur. Ça veut dire que dans notre communion individuelle avec Dieu, eh bien Dieu vient nous consoler déjà pour nous-mêmes, vient nous montrer qui il est, vient nous apporter les soins dont on a besoin. J'aimerais te dire ce matin, si ce matin tu as besoin de cette consolation, de pouvoir encore recevoir un apaisement, eh bien il faut le chercher dans la communion avec Dieu. Et comment elle s'expérimente cette communion ? Avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personne qui nous révèle qui est Dieu, qui nous révèle et qui nous communique tous les bienfaits de Dieu. Et David entretenait cette communion avec Dieu. C'est merveilleux. Et on voit une chose, c'est que ça se répandait, ça se voyait. Je ne sais pas si vous connaissez ce slogan, « Nous, c'est le goût ». Ouais, « Nous, c'est le goût ». Alors après, on aime, on n'aime pas. Hein. Je suis partisan en plus d'une autre chaîne de resto, mais peu importe. « Nous, c'est le goût ». Aujourd'hui, des chaînes de restaurants sont obligées d'afficher que là, il y a quelque chose de bon à manger. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais ils mettent l'étiquette parce que l'étiquette amène des gens à dire, bah voilà, là, il y a quelque chose de bon. Là, il y a quelque chose de bon à manger. Alors, on va aller là-bas. Ils ont besoin de cette étiquette. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu goûtes au sel, tu n'as pas besoin de voir que le sel a bon goût. Tu as juste à le goûter pour voir que le sel a bon goût. Et Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que rien qu'en nous, rien qu'à notre contact, les gens pourront constater que nous avons du goût, que le goût divin, que le goût du ciel, que ce goût du réconfort qui vient directement de Dieu, eh bien, il est avec nous et il ne demande qu'une chose, c'est à se répandre, à se répandre. Mais Jésus dit aussi, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce sel, cette saveur, c'est la vie de l'esprit qui le donne. La vie de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est quoi ? C'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la tempérance. Toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu veut le répandre par l'esprit dans nos vies. Pourquoi ? Parce que des hommes et des femmes ont besoin de pouvoir avoir à leur côté des gens qui sont rempli de cette onction de l'esprit, tout comme David était rempli, et parce qu'il devait remplir une mission, celle d'aller consoler un homme qui était totalement désemparé dans son angoisse, dans sa situation. J'aimerais vous dire, j'étais cette semaine à la fête de la musique avec les différents groupes qui sont passés. Dieu vraiment était là ce soir-là. Plein de gens s'arrêtaient, plein de gens écoutaient. Je commençais à parler avec quelques-uns, je voyais une chose, c'est que ces gens-là avaient une soif de pouvoir goûter à ce qu'ils pouvaient entendre au travers des paroles. Ils étaient interpellés. Je voudrais vous dire déjà une chose, c'est que le Saint-Esprit agit déjà en nous. Le Saint-Esprit déjà nous utilise. Le Saint-Esprit, des fois malgré nous, parce qu'on on ne soupçonne pas, mais celui qui a une communion avec Dieu, celui qui entretient cette vie d'esprit, eh bien, il y a quelque chose qui interpelle les gens. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est d'aller écouter. Et lorsque j'étais là, vendredi soir, je voyais que plein de gens s'arrêtaient. Je commençais à leur parler de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils ressentaient. Il y a une réelle soif. Ils ont besoin. À Créteil, il y a vraiment une soif. Les gens, à chaque fois qu'on les croise, mais ils sont interpellés, ils ne sont pas indifférents parce qu'ils ont un besoin. Et ce besoin, Dieu seul peut le combler. Vous savez, dans les foyers, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on a juste à allumer la télé pour voir les conséquences de ce qui se passe dans les foyers. Les gens ont besoin de cette huile merveilleuse. Parce que cette huile fait la différence. Cette huile a fait la différence dans vos vies, veut encore la faire dans vos vies. Mais Dieu veut la répandre. Dieu veut la communiquer. C'est l'appel de l'Église. Comment peut-on recevoir cette huile? C'est mon deuxième point. Comment peut-on recevoir cette huile? Comme je l'ai dit, l'onction dans l'Ancien Testament était conférée à certaines personnes que Dieu désignait, mise à part, consécration, pour un exercice, pour être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais on voit une chose de merveilleuse, c'est que Jésus vient avec lui apporter une bénédiction mais qui est merveilleuse. Vous savez, Jésus est le Messie, il est le Christ. Et la racine hébraïque de Messie, la racine grecque de Christ, ça veut dire oint. C'est celui qui est oint par excellence. Jésus, et on le voit dans Ésaïe 61, Jésus est celui que l'Éternel a oint pour. Et pourquoi? Pourquoi Dieu a oint Jésus? On voit une chose, c'est que Jésus a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il l'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Jésus est la personne qui est oint par excellence. Mais on voit une chose, c'est que cette onction, Dieu l'a donnée lui-même à l'Église. Déjà même, les prophètes envisageaient et se réjouissaient à l'idée de ce moment. Joël commence à dire, vos fils, et je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je voudrais répandre en abondance cette bénédiction sur tout homme qui se confie en moi, qui met son espoir en moi. Jésus veut la répandre sur son Église. Déjà, il y a tellement d'images merveilleuses que l'on voit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il nous est dit que c'est l'ombre des choses à venir. On voit une autre image encore, mais merveilleuse, c'est le psaume 133. Le psaume 133, on voit qu'il dit « Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que Dieu répand l'huile précieuse de la tête d'Aaron jusque sur tous ses vêtements. Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Là, il y a encore une image. Le souverain sacrificateur. Jésus est notre souverain sacrificateur, celui qui, à la croix, a déchiré le voile. Et vous savez certainement que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est celui qui avait accès au lieu très saint. Et par l'œuvre de Jésus à la croix, il est dit que le voile du temple est déchiré. Mais Jésus est ce nouveau souverain sacrificateur. Et Aaron est l'image du souverain sacrificateur. Jésus est la tête du souverain sacrificateur. Et l'huile coule de la tête sur le corps. Le corps de Christ, qui c'est? C'est l'Église. Dieu veut répandre, Jésus veut répandre son esprit sur son corps, qui est l'Église, parce qu'il veut que l'Église, son corps, fasse la différence dans ce monde. Alléluia. J'aimerais quand même finir sur un point qui est important pendant que les musiciens avancent. C'est que Dieu nous a donné cette onction. Dieu veut la répondre avec abondance. Mais il nous demande aussi de veiller sur cette onction, de veiller sur cette huile. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1, il est dit « Les mouches mortes infectent et fermentent l'huile du parfumeur. » Les mouches mortes. Dieu nous a donné un cadeau merveilleux. Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus précieux. Le parfumeur, le divin parfumeur, c'est Jésus. Aujourd'hui, il nous associe à ce ministère en nous confiant son esprit. Il nous dit bien, et ça c'est vraiment important, c'est que lorsqu'il a accompli cette œuvre à la croix, Il a dit à tous ses disciples, attendez jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Les disciples ont attendu et ils ont reçu la Pentecôte. Et Dieu a transformé ses disciples qui étaient que eux-mêmes par des gens, mais vraiment surnaturels. Un Pierre qui était tout faible parce qu'il avait renié Christ à la croix. Eh bien, on voit cet homme se dresser devant une foule et parce qu'il était loin du Saint-Esprit, eh bien, une église se lève, une église naît de ses cendres, une église dans la persécution. Il a le courage d'affronter un Goliath, la persécution, les Juifs, pour pouvoir communiquer la vie. Et une église naît. Mais Dieu nous donne un devoir, c'est de protéger cette huile. Et quelles sont les mouches aujourd'hui qui peuvent infecter l'huile? L'apôtre Paul nous dit une chose dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et là, il cite amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous. Il va encore plus loin dans le développement à partir du chapitre 5. Quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes ses formes, à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas de même question entre vous. L'huile du parfumeur, c'est quelque chose de puissant. Le Saint-Esprit, Dieu l'a donné à l'Église. On a une responsabilité, l'entretenir, la protéger. Parce que par elle, nous produisons la différence. Par elle, dans la communion avec Dieu, dans votre vie, Dieu veut produire la différence. Il nous appelle à ça. Le diable sait. C'est pourquoi il cherchera systématiquement à couper cette onction sur nos vies. On peut encore voir tellement d'exemples dans la Bible. Rien que voir Samson. Samson, cet homme qui a été consacré à un appel à pouvoir, c'était encore un appel spécial dans l'Ancien Testament, à délivrer le peuple. Son signe de sa consécration, c'était d'avoir des longs cheveux, c'était un vœu de Naziréa, c'était dans la loi. Eh bien, celui qui faisait ce vœu devait se laisser pousser les cheveux. Mais derrière tout ça, on voit une chose, c'est que de là venait sa force, de là était son onction. Par sa chevelure, un symbole encore, mais qui montrait que par sa chevelure, Dieu l'avait consacré, il y avait une marque spécifique sur sa vie, le Saint-Esprit agissait au travers de lui et il délivrait par des actes miraculeux le peuple d'Israël. Et à chaque fois, le diable venait comme exploiter ses failles, la sexualité, l'immoralité, et jusqu'à ce qu'il trouve une faille et qu'il lui coupe ses cheveux, qu'il lui coupe son onction. Dieu nous appelle à protéger l'onction. Sachez que le diable voudra à tout prix vous séparer de l'onction parce que cette onction produit la différence. J'aimerais qu'on s'incline, qu'on repense à tout ce qui est dit parce que ce matin, tu es peut-être face à Goliath, tu es peut-être devant une difficulté qui te dépasse. J'aimerais vous dire une chose, l'armée d'Israël était dépassée. Et quelqu'un a fait la différence, un petit David. Il a fait la différence comment il était rempli du Saint-Esprit. Il avait connu la Pentecôte, Dieu lui avait conféré l'Esprit et cet homme-là a renversé les situations. Dieu aimerait faire de nous des gens remplis du Saint-Esprit. Si tu es ce matin, dans cette situation, Goliath est là devant toi, il te paralyse. J'aimerais te dire qu'il veut te donner ce Saint-Esprit. J'aimerais aussi vous dire que l'Église est appelée à aller dans la vallée, à aller combattre Goliath, à aller chercher des gens dans la vallée, parce qu'il veut nous rendre victorieux et pouvoir encore rendre libres des personnes qui sont détenues par le diable. Seigneur, viens nous remplir de ton onction. Si c'est ton cas ce matin, eh bien dans ce cas-là, je t'inviterai juste à te lever et à chanter avec nous. Seigneur, viens, remplis nos cœurs, juste par une prière encore. Peut-être que toi, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ce matin. Eh bien, j'aimerais te dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, Dieu veut nous donner. Dieu veut te donner. Alors, si c'est ton cas, lève-toi si tu veux expérimenter ce don miraculeux de Dieu. Si c'est ton cas aussi et tu as besoin encore de pouvoir te renouveler, bien lève-toi. Parce que Dieu veut encore déverser sa bénédiction sur ta vie. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 N'attends pas, tout simplement avec un cœur disposé, ma prière me concernant, c'est que je veux encore être rempli du Saint-Esprit. Je veux encore que Dieu m'utilise. Je veux encore que Dieu produise la différence dans ma vie. Je veux voir encore Dieu agir comme il agit dans la Bible. Je veux voir encore les fruits d'esprit se manifester dans ma vie. Je veux le voir aussi dans l'église. Je veux voir mon Dieu agir. Je veux qu'il se glorifie. Je veux qu'il vienne délivrer des âmes. Je veux qu'il vienne encore venir au secours de ceux qui ont besoin de lui. Parce que je sais qu'il en est capable. Et je sais aussi qu'il m'appelle. Et il vous appelle. Alors répondez à son appel. Alléluia. On va prier et après on entendra ce chant. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ton esprit. Nous avons soif de ton onction. Nous voulons, Seigneur, le meilleur pour ton église. Parce que c'est ton église. Tu t'es sacrifié pour elle. Tu l'aimes. Mon Dieu, nous l'aimons. Nous aimons ton œuvre. Nous voulons, Seigneur, encore plus de communion avec toi. Nous voulons une vie encore en plus riche avec toi. C'est pourquoi nous te prions de déverser ton esprit sur nos vies. Nous voulons encore une nouvelle Pentecôte dans nos vies. Je te prie de déverser avec abondance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois ceux qui sont ce matin dans la vallée face à Goliath. Eh bien, dans le nom de Jésus, rends-les victorieux par ton esprit ce matin. Seigneur, mon Dieu, fais briller ta lumière. Seigneur, mon Dieu, sur chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia, mon Dieu. Amen. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Alléluia.
Mon âme a soif de toi, Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier sous. Ton cœur de Père, la source qui désaltère.
Yeah.
remplis, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change. Assoiffé de ta présence, ô Père, entends mon cri, celui de la délivrance, j'en veux ta. Viens Jésus, chante.